je vous propose de rester avec nous pour la deuxième partie de l'atelier du son. Ça va commencer, on va parler argent. L'argent, un texte de Christophe Tarkos qui est monté à la Gaîté Lyrique à Paris ces jours prochains.
L'argent réconcilie l'homme avec son individualité. L'homme est un individu, c'est l'argent qui fonde l'individu de l'homme. L'homme est un individu parce qu'il y a l'argent qui le fonde en tant qu'individu. Son droit, son pouvoir sur l'utilisation de son avoir et sur la valeur que sa possession représente, car l'avoir est à une personne. Abandonne le pouvoir des relations en donnant par l'argent le pouvoir de toutes les relations. L'argent est omni-relationnel.
Voilà un extrait, une captation d'une répétition, parce que c'est pas encore joué à la Gaîté Lyrique. Ça commence le 19 septembre, dans quelques jours. Bonsoir, Anne Théron.
Bonsoir.
C'est vous qui mettez en scène cet argent, l'argent de Christophe Tarkos, donc à la Gaîté Lyrique avec Stanislas Nordet et Akiko Asegawa, et qui partira ensuite en tournée. On va donner les dates dans un instant. On a souhaité ici, dans l'atelier du son, parler de ce texte, notamment à cause ou grâce à Christophe Tarkos, qui est une figure qui revient de temps en temps dans les entretiens qu'on peut mener les vendredis soirs avec certains poètes sonores ou pas sonores, d'abord, évidemment, qui sont influencés souvent par ce rapport à la langue, ce rapport au langage, cette manière de projeter dans le son et dans le rythme la langue. Et Christophe Tarkos, qui est donc
décédé à 40 poètes, ans. Hein,
pas que les poètes, ça commence à rayonner, on va dire.
Oui, ça, je l'ai découvert en le découvrant moi-même. Je me suis aperçu qu'une fois de plus, j'arrivais après tout le monde. Et que ma stupéfaction, mon admiration était partagée par beaucoup de monde, beaucoup de jeunes comédiens d'ailleurs.
Mmh. Mais il y a à travers ce spectacle trois directions qu'on peut évoquer. Il y a d'abord le dispositif où le son est important, on va en parler. Il y a Tarkos lui-même, on l'a dit, puis il y a l'argent. Et je crois que c'est par le thème que vous êtes arrivé à cette pièce-là.
Absolument. Cette pièce ou ce texte, c'est pour moi un long poème. En fait, je voulais travailler autour du marché de l'art, et ne serait-ce que d'ailleurs par le paradoxe du marché de l'art. Je trouvais ça quand même assez, assez obscène. Mmh. Et j'étais très, très agacée, voire franchement furieuse, voilà, des chiffres absolument colossaux, des dernières ventes de ces œuvres qui avaient été créées dans, on va dire, quelque chose d'un peu transcendantal, pas tout l'acte artistique a quelque chose de transcendantal, c'est supposé créer de la beauté, de la mémoire, et enfermer, voilà, des placements financiers. Je trouvais, bon, que tout ça était totalement scandaleux, et je voulais partir des textes de Beuys, Joseph Beuys, qui est un artiste que j'admire énormément. En plus, je trouve que l'homme, quand même, qui a été aux États-Unis sans mettre les pieds sur le sol des États-Unis, transporté dans sa cage, c'était quelqu'un qui manquait pas d'humour. Il se fait que la veuve de Monsieur Beuys a moins d'humour que son époux, malheureusement, et que Dieu sait que les éditions de l'Arche, Katharina von Bismarck, ils ont tout fait pour m'aider, mais on n'a pas eu accès au texte. Donc voilà, j'étais là. J'ai écrit moi-même des choses dont je n'étais pas satisfaite, et j'avais demandé dès le début à un artiste, Christian van der Bord, de travailler avec moi, de collaborer avec moi, parce que je voulais travailler sur l'argent. Il était évident que l'argent, on était sur du flux numérique.
Ouais, ouais.
Voilà. Et donc, moi, je suis un metteur en scène, tout ce qu'il y a de plus antédiluvien, de l'âge des dinosaures. Je dirige des comédiens, j'utilise de la vidéo, du son, mais je ne travaille pas encore bien.
On va nuancer ça, peut-être, quand on va parler du dispositif numérique qui entoure toute la scène. Mais effectivement, la question du flux est présente, le flux financier et le flux de la langue.
Oui,
là, Stanislas Nordet,
donc,
qui saisit le texte.
Juste pour conclure, donc, comment j'en suis arrivé à Tarkos, il se fait que j'avais, parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César, il y a un collectif qui s'appelle Il dit, elle dit, qui est d'ailleurs un très bon collectif, et j'avais vu chez lui, au lieu unique, un travail, un work in progress, il y avait, autour de l'argent, et il y avait des choses comme ça qui étaient rentrées, voilà, et qui étaient restées. Mmh. Et puis j'ai cherché sur qui ils avaient travaillé, j'ai trouvé Tarkos, il se fait qu'en plus, j'adore le nom Tarkos. Voilà, ouais. J'ai un personnage moi, qui s'appelle Stakos, et Tarkos, je trouvais ça assez beau. Puis Tarkos, effectivement, ça fait penser à Tarkovski.
Je me demandais si ce personnage, donc, qui je crois est un de vos romans, qui s'appelle Stakos,
ouais.
Vous l'aviez écrit avant ou après?
Oh non, bien avant.
Bien avant. Oui, donc c'est une
avant.
Rencontre
non,
aussi comme ça.
Ça n'a strictement rien à voir.
De langue et de.
Mais Tarkos, j'ai cru, moi, effectivement, qu'il venait de l'Est, hein, pas du tout. C'est un garçon qui est né à Marseille. Et il semble même, d'ailleurs, par des courriers que j'ai reçus de ses amis, que je l'aurais peut-être rencontré. Mm-hmm. Donc, bon, bref. Et Tarkos semble, effectivement, avoir choisi son nom également en référence à Tarkovski, d'après ce que j'ai lu. Donc, bon, à vérifier. Toujours est-il que donc je lis le texte, l'argent, et là, je suis mais stupéfaite. Mais vraiment stupéfaite. Je me dis, mais d'abord, quelle beauté, quelle virtuosité. La langue sonne, elle résonne. Le sens est absolument insensé et jamais dans aucun dogmatisme. Alors, Tarkos insiste beaucoup en disant qu'il n'y a aucune ironie dans ce qu'il écrit, ouais. Il n'y a aucun second degré, il est comme ça sur cette notion de la patmo.
La patmo, c'est ça, la voilà, langue.
Il travaille sa matière.
La matière vraiment dans la bouche même.
Et c'est ce qui fait qu'on en a plein la bouche. Ouais. Et d'ailleurs, Stanislas Nordy, je pense que ça a quand même été une de ses pires épreuves, parce qu'apprendre un texte pareil, ce n'est pas une sinécure.
L'apprendre et puis le projeter, parce qu'il y a vraiment ça aussi, ce flux dont vous parlez.
Il se projette, je voudrais dire, il se projette un peu naturellement. Ouais, ouais. Et quand on s'appelle Stanislas Nordy, qu'on est un comédien, dire, ça va. Surtout qu'il n'y a rien à jouer. Il n'y a vraiment rien à jouer. Il faut le faire entendre. Oui, ça, c'est merveilleux.
Oui. Mais vous parlez justement de la langue dans la bouche, la patmo. On a trouvé un enregistrement de Christophe Tarkos lui-même qui traduit un peu ça dans ce texte qui s'appelle « J'ai un problème ».
J'ai un problème, voilà, qui est très explicite et complètement collé. J'ai un problème, voilà, et complètement explicite. C'est complètement collé ensemble tout, parce que tout ce qui est collé, c'est-à-dire tout ce qui sort de ma bouche, j'ai remarqué, est collé. C'est-à-dire, je ne dis pas « c'est un problème » et après je dis « c'est complètement explicite », je dis d'un coup « c'est un problème », c'est complètement explicite, c'est-à-dire c'est d'un seul coup. J'ai remarqué que tout était complètement collé, j'ai remarqué que tout ce que je dis qui semble complètement collé, j'ai remarqué que tout ce que je dis qui semble être complètement collé est complètement collé. C'est-à-dire que c'est pas une fois je dis « c'est mon problème » et après je dis « c'est complètement explicite », mais c'est simplement quand je dis « j'ai un problème », c'est complètement explicite. Il y a que j'ai un problème, c'est complètement explicite et complètement collé ensemble. À quoi ? C'est ce que je me demande. Je me demande à quoi c'est collé. C'est ça que je me demande. Il y a juste à quoi et moins collé déjà.
La voix de Christophe Tarkos enregistrée, ce texte « J'ai un problème » Tarkos qui a disparu il y a 8 ans et dont vous mettez en scène donc l'argent, ce texte, à partir de mercredi, à partir du 19 septembre jusqu'au 23, à la Gaîté Lyrique, interrompt. On disait tout à l'heure, lancer, pas d'ironie, en même temps là on sent quelque chose qui est de l'ordre du vertige, et ça j'ai l'impression que c'est aussi dans le texte de l'argent, le vertige.
Ah oui, c'est tout à fait étonnant. C'est construit un peu. C'est comme la marguerite, vous voyez. Il y a un cœur comme ça. Il y a une. D'ailleurs, c'est énoncé dès le début. L'argent est la valeur sublime. C'est proportionnellement, on n'est pas du tout dans la même ambiance que ce qu'on vient d'entendre. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est que le texte a une bonne dizaine d'années et qu'il est incroyablement contemporain. Mmh. C'est d'ailleurs terrifiant à quel point il est contemporain. Il explique très clairement, enfin il dénonce très clairement qu'effectivement l'argent est le nerf de la guerre. Il y a des phrases merveilleuses, l'argent est le passage à l'acte, l'argent est la seule valeur universelle. Il y a une phrase que j'aime beaucoup.
La notion d'argent supprime la notion de traître.
C'est l'argent qui fonde l'individu de l'homme. L'argent fait faire des grimaces, l'argent est omnirrationnel. Toute personne est un travailleur de la manipulation de l'argent. Je trouve ça magnifique. Enfin, magnifique. Tout le monde a un anus pour dire qu'effectivement tout le monde peut faire de l'argent. Et il y a ces deux phrases, effectivement, la loi est la seule brutalité et la notion d'argent supprime la notion de traître.
Voilà, c'est comme vous disiez, il n'y a pas de message non plus qui est asséné. On est aussi dans la langue qui doit passer par presque d'autres ports que celui du cerveau.
C'est assez étonnant parce que c'est en quoi le mot fait sens. Ouais. Effectivement, en décortiquant le mot et tout ce qui est associé, effectivement, on est dans le monde de l'argent aujourd'hui. C'est-à-dire que ce n'est plus quelque chose de concret, une rémunération, quelque chose qui avait à voir avec le travail ni quoi que ce soit. On est dans du flux, du pur flux. Hein. Et c'est pour ça qu'on voulait absolument travailler sur le numérique, sur la data visualisation, puisque l'argent aujourd'hui, c'est un système d'ordre qui sont données et de statistiques. On a les années 80, l'arrivée des mathématiciens
dans les banques.
On a la puissance de Goldman Sachs, etc., etc., qui, bon, voilà, ils ont absolument tout infiltré. Ça questionne vraiment le politique. C'est le texte le plus scandaleux que j'ai eu entre les mains, réellement. Et en fait, plus je travaille, plus je m'en aperçois. Et puis c'est vrai que le texte est tellement contemporain de ce qui se passe aujourd'hui, donc quand on a vu les attaques directement des marchés contre les États, contre la déstabilisation. C'est-à-dire qu'effectivement, la notion d'argent supprime la notion de traître.
Oui. Voilà. Et alors, vous parlez de data visualisation. Effectivement, à la Gaîté Lyrique, les quatre murs du lieu
on est dans un 360 degrés.
Sont des écrans et sont projetés. Enfin, c'est pas de la projection. Je pense d'ailleurs, mais
c'est l'écriture numérique.
C'est l'écriture numérique, les données, les statistiques. Oui. Sont en mouvement, on voit le flux bouger,
voilà.
Et c'est une sorte de langue supplémentaire à côté de la langue de Tarkos, j'ai l'impression.
C'est la rencontre des deux langues. C'est ouais. vraiment, moi, ce qui m'intéressait et ce qui me rassure un petit peu quand même dans cette affaire, c'est que ce qui nous intéressait, c'était de confronter le flux organique du poète. Et donc, on a deux interprètes, une femme, un homme, une japonaise, un français, une danseuse, un comédien. On a fait traduire le texte en japonais.
Vous avez traduit le Tarkos ouais. en japonais.
Oui, je trouvais que Tarkos en japonais, c'était vraiment intéressant.
Et c'est Akiko Hasegawa qui dit, en écho.
Voilà, qui précède tout le temps Stanislas Nordet. Donc, c'est lui qui traduit
derrière,
qui reprend derrière.
Oui,
absolument. Avec un certain nombre de codes entre eux pour que ça puisse communiquer, parce que du japonais, du tarkos dit en japonais à toute vitesse, je peux vous assurer que déjà, quand vous devez apprendre le texte français, c'est pas mal.
Ça dépasse les notions de japonais que oui. Stanislas Nordet peut avoir, c'est ça que vous dire.
Non, mais en tout cas, maintenant, il chante le rock japonais absolument ouais. parfaitement, donc ça sera, c'est une nouvelle version de ce comédien. Mais c'était vraiment, et ce dont on sait, et c'est la rencontre donc, du flux organique de cette parole, portée, incarnée par ces deux corps face au flux virtuel, ce qu'on voit effectivement sur les quatre écrans qui entourent le spectateur. Le spectateur, comme ça, est à l'intérieur d'un dispositif avec un travail du son qui est absolument énorme et qui est toute une... C'est pas de la musique à proprement parler, c'est pas non plus du son, parce que moi, j'ai toujours travaillé le son, mais beaucoup plus dans une logique de cinéma avec des montages, des bruitages, etc. Là, non, on est plus sur des rythmes. Voilà, comme ça,
j'ai l'impression que vous travaillez vraiment le rythme du son, dans le sens où il y a des vrais blancs, c'est-à-dire qu'il y a des moments où les comédiens représentent le seul son présent, et tout d'un coup le son repart à des moments très précis. J'ai eu la chance de voir une répétition, c'est une partition. Et la question du temps, du rythme, par le son, est quelque chose de fondamental dans votre mise en scène.
Bah, ça l'est depuis toujours, c'est pas spécialement lié à Tarkos. Déjà, quand je travaillais sur Alfred de Vilhinec, sur le Jacquis, en fait, la manière dont je prends des textes qui sont comme ça, des blocs, des pavés, qui sont en plus, en termes de compréhension, pas toujours aisés, et que l'idée de faire entendre un texte sur un plateau, c'est justement qu'ils soient entendus, quel que soit le dispositif autour. Et comme, effectivement, dans les dispositifs sur lesquels je travaille, il y a de l'image, il y a de la lumière, il y a du son, il y a du corps, etc., que je suis en général au croisement de plusieurs pratiques artistiques, ça fait un certain nombre d'informations. La réaction française, en général, c'est de vouloir comprendre, de vouloir dominer l'objet qu'on vous présente. Au lieu de faire son chemin et à un moment donné de se laisser emporter par une logique émotionnelle qui sera la sienne.
Là, on peut physiquement faire son chemin, parce qu'on peut faire le tour de la scène qui
on
est
peut
au centre
déplacer,
de la pièce.
C'est même conseillé. Ouais. Mais c'est pas... J'ai fait des filages, les gens ont beaucoup de mal. Parce que justement, ils veulent tout voir, tout comprendre, tout contrôler. Non, s'il vous plaît, c'est bon, Descartes est mort, laissez-le, quoi. Je veux dire, je peux être sans forcément penser, je veux dire. Donc, bon.
Ça, c'est pour moi, parce que j'ai pas réussi à bouger, j'ai pas voulu me lever de ma chaise.
J'ai tenté.
Vous m'avez proposé. Mais bon, voilà. Le son, c'est Jean Rebelle, c'est ça, qui travaille avec vous, qui a fait ça. Comment ça se passe? C'est-à-dire, est-ce qu'il fait des propositions de matière sonore? Parce que vraiment, par moments, il y a effectivement de la musique, mais il y a la vraie matière sonore, du bruit, du son numérique, etc.
Bah parce que je lui ai demandé, comme à tous les créateurs son avec qui je travaille, d'arriver avec ce que j'appelle des valises sonores. Mais ça, c'est un procédé de cinéma, hein, de montage film. Puisque moi, j'ai commencé à faire des films avant de passer au plateau. Et donc, j'ai toujours des valises dans lesquelles il y a des bois, des bruits de pas, des bruits d'oiseaux, enfin des tonnes de choses. Et après, c'est comment on les mixe, comment on les ralentit, comment on les boucle et comment on crée. Le son n'est pas là pour illustrer ce qui se dit. Le son, c'est une entrée dramaturgique. C'est pour ça que j'étais absolument ravie, Marjorie, d'écouter votre travail. Moi, vous savez, finalement, je suis arrivée à la mise en scène. Une des entrées, ça a été vraiment la radio. Quand j'étais petite, j'écoutais d'ailleurs souvent France Culture, planquée sous mon lit avec des vieux transistors. Et j'écoutais comment on appelle ça,
des dramatiques à l'époque.
Voilà, des dramatiques qui m'emportaient très loin. Bon, voilà. Et même quand j'ai commencé à faire du cinéma, j'ai demandé plus de temps au montage son qu'au montage image. Voilà, parce que je pense que le son, c'est l'endroit de l'inconscient, c'est l'endroit de l'imaginaire, c'est l'endroit de la manipulation également. Il suffit d'ailleurs de voir les grands politiques. C'est-à-dire, certains ont su emporter les foules uniquement sur leur diction. Comme quoi, ça peut être extrêmement dangereux. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis très étonné que dans le milieu théâtral français, on s'insurge encore contre les micros, alors que c'est vraiment l'endroit de la création et non pas l'endroit du volume.
D'ailleurs, vous utilisez vous-même dans cette mise en scène les micros, dans le sens les différentes formes de micros. À un moment donné, Stanislas Nordet est un micro à pied, comme un chanteur,
oui,
comme
un
rocker.
Absolument.
Voilà. Et donc,
au HF.
Un micro comme ça, tout près
de la
bouche.
J'ai toujours travaillé au HF.
Madonna.
Ouais,
voilà.
ouais.
Et il y a une chose vraiment assez... Il y a une vraie performance physique de la part de tout le monde, mais d'Akiko Hasegawa en particulier, j'ai l'impression. Donc danseuse, il y a une vraie chorégraphie. Et je me suis demandé s'il n'y avait pas l'idée d'un sample chorégraphique. Parce qu'on la voit plusieurs fois faire un mouvement comme répété, et comme si la grammaire, on va dire, numérique sonore, se portait sur le corps.
Le mot sample, bon, moi j'appelle ça boucle, mais oui, je suis une vieille obsessionnelle de la boucle. Oui, oui. J'aime ça. Et je le travaille sur le corps comme je travaille sur le son, plus que sur l'image d'ailleurs, quand je travaille avec des projections, parce que je ne travaille pas forcément toujours avec des projections. Puis en plus, là, on n'est pas dans les projections, on est dans une écriture numérique, donc on est vraiment dans un autre monde. Mais oui, c'est ça qui m'intéresse. Effectivement, c'est la répétition, parce que quand on est dans la répétition, en tout cas surtout sur l'organique, sur le corps, on n'est jamais dans l'exactitude.
Ouais,
il y a toujours cette espèce d'infinie variation qui fait que le corps est humain et ne respire jamais deux fois exactement de la même façon.
Donc un peu d'humain au milieu du flux.
Mais en fait, pour conclure cette histoire, c'est que c'est l'humain qui a gagné. L'humain qui a gagné, parce que quand au début, quand on a commencé avec Stan, on se mettait le texte en bouche, bon, on travaillait l'ascension, etc., etc. On s'est aperçu que bon, voilà, il fallait le faire entendre, il pouvait y avoir un côté un peu rébarbatif, etc. Ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui, je pense. Et puis avec ce système de regard entre cet homme, cette femme, la parole qui est passée, etc., on s'aperçoit, d'ailleurs c'est très étonnant, et Stan il a complètement raison, il dit tout le temps que c'est une fausse déclaration d'amour à l'argent. Et Anthony, qui est une des personnes de notre équipe, disait, mais en fait si on remplaçait l'argent par l'amour, ça fonctionnerait bien effectivement, on pourrait dire, non pas l'argent et la valeur sublime, mais l'amour et la valeur sublime. Voilà. Donc c'est effectivement, il y a tout un déplacement, mais ce que je veux dire par là, c'est que sur le plateau, Dieu sait que le numérique est présent, Dieu sait qu'on est dans un objet, on va dire, hautement technologique, et pourtant, c'est l'humain qui passe avant tout. Ça, j'en suis absolument convaincu.
Anne Théron, pourquoi terminer la pièce par London Calling des Clash ? C'est les punks qui ont encore la bonne réponse ?
Parce que c'est c'est la fin des années 70, début des années 80, c'est l'arrivée des mathématiciens à la banque, c'est Thatcher. C'est enfin une femme au pouvoir, on s'en souviendra. Et je vous assure que j'ai que mes yeux pour pleurer parce que je me revendique comme une grande féministe. Donc je ne peux pas dire que j'ai été très heureuse du règne de Thatcher. Et que effectivement, les punks étaient bien en dessous de la vérité.
London Calling qui termine aussi l'émission de ce soir. Merci Anne Théron d'être venue ce soir pour parler donc de l'argent avec Stanislas Nordet et Akiko Hasegawa, avec la collaboration numérique de Christian Vandenbort et Philippe Boinard. C'est donc à partir de mercredi et jusqu'à dimanche prochain. La tournée passera par le Théâtre Liberté à Toulon début octobre, Marne-la-Vallée et la Ferme du Buisson les 20 et 21 octobre, Montbéliard puis Mulhouse, puis l'Agora d'Evry fin novembre. Et puis merci à vous Marjorie Van Alteren d'être restée avec nous et d'avoir fait un crochet dans ce studio. Les liens, le podcast pendant un an et les commentaires tout le temps, c'est sur le site de l'Atelier du Son, sur franceculture.fr. L'Atelier du Son est préparé par Inès de Brune et Anne de Biran. Au son ce soir, il y avait Olivier Dupré et à la réalisation, Véronique Lamandour. L'Atelier du Son, c'est terminé. Thomas Baumgartner, je vous souhaite une belle nuit et je vous laisse entre les mains d'Aurélie Charron. Wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out.